9 et qui concerne le budget de l'Office de tourisme. Le compte administratif du budget annexe de l'Office de tourisme peut être récapitulé ainsi. En dépenses de fonctionnement, un total de 180 608 euros et 192 434 euros en recettes, y compris l'excédent reporté. En section d'investissement, 1 155 000 de dépenses et 44 911 de recettes, dont l'excédent reporté. Ce compte administratif se clôture donc sur un excédent conforme au compte de gestion de 56 736,90 euros. Y a-t-il des questions, des remarques? Merci, monsieur. Chers collègues, je vous propose donc d'adopter le compte administratif de l'Office de tourisme tel que je vous l'ai présenté. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Parfait, merci. Monsieur Zilio. Il s'agit maintenant du rapport 40 et qui concerne le pôle médical. Le compte administratif du budget annexe du pôle médical se conclut de la manière suivante. En dépenses de fonctionnement, nous avons 362 269 euros. En recettes de fonctionnement, nous avons 377 725 euros, y compris l'excédent reporté. Les dépenses d'investissement sont de l'ordre de 2 891 euros, y compris les restes à réaliser, et les recettes d'investissement de 27 955 euros, y compris l'excédent reporté. Ce compte administratif se clôture donc avec un excédent conforme au compte de gestion à hauteur de 30 879,95 euros. Y a-t-il des questions ou des remarques?
Madame la Présidente.
Oui.
Juste une remarque sur 2023 pour vous dire que le pôle médical a accueilli un centre de santé avec une association qui salarie des médecins généralistes sur 2023, c'est une nouveauté, et que parallèlement, en avril 2023, a été créée et installée au pôle ce qu'ils appellent la CPTS, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Nord-Provence, qui organise toute la médecine générale sur le nord du territoire et qui englobe les 5 communes de la communauté de communes, plus les communes du Chaux, Sainte-Cécile-les-Vignes et la Garde-Pariole. Voilà ce que je voulais préciser. Donc, ça va dans le sens du développement de la médecine sur notre territoire. Et que c'est porté par le docteur Marchand et par l'infirmière de La Palue, dont j'ai Blanquier, que je remercie pour le travail qu'ils ont fait d'abord dans le centre de vaccination et de dépistage et aujourd'hui dans la CPTS.
Merci pour ces précisions et ces informations. Des remarques? Très bien, merci. Chers collègues, je vous propose donc d'adopter les chiffres concernant le pôle médical comme je vous les ai exposés. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Merci. Monsieur Zilio, s'il vous plaît. Nous abordons maintenant le rapport 41 qui concerne la zone d'activité de la croisière. Excusez-moi. Le compte administratif du budget annexe de la croisière clôt l'année 2023 avec les chiffres suivants. En dépenses de fonctionnement, nous avons 2 952 904 euros, y compris le résultat reporté. En recettes de fonctionnement, nous avons 2 750 586 euros. En dépenses d'investissement, 3 200 981 euros, y compris le résultat reporté. En recettes d'investissement, nous avons 2 606 475 euros. Ce compte administratif se clôture donc avec un déficit conforme au compte de gestion de 796 823 euros. Des questions? Monsieur Zilliot, je vais
juste 9 lots cédés sur 15 en 2023 et 4 lots en compromis au moment où je vous parle. Voilà ce que je voulais préciser.
Merci. Chers collègues, je vous propose donc d'adopter les chiffres tels que je vous les ai présentés concernant la zone d'activité de la croisière. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Monsieur Zilliot, s'il vous plaît. Nous abordons maintenant le rapport 42 qui concerne la zone d'activité Pan-Europarc. Ici, le compte administratif du budget annexe Pan-Europarc se clôture ainsi. Dépenses de fonctionnement 3 507 189 avec le résultat reporté. Les recettes de fonctionnement sont de 2 050 586 euros. Les dépenses d'investissement 3 200 981 euros, y compris le résultat reporté. Les recettes d'investissement sont de 2 606 475 euros. Et ce compte administratif se clôture donc avec un déficit conforme au compte de gestion à hauteur de 486 789,43 euros. Est-ce qu'il y a des questions, des informations ?
Juste si vous me permettez, 200 000 euros liés à la fin des baux ruraux. Il nous reste encore 2 baux ruraux à indemniser et ensuite on aura fini l'opération sur les baux ruraux sur la ZAC.
Merci, Monsieur Zilliot. Chers collègues, je vous propose donc d'adopter le compte administratif de la zone d'activité Pan-Europarc sur les chiffres que je vous ai exposés. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Monsieur Zilliot. Nous abordons le rapport 43 qui concerne la zone d'activité La Clastre. Le compte administratif de ce budget annexe de la zone d'activité de La Clastre se conclut ainsi. Dépenses de fonctionnement 343 487 euros avec le résultat reporté. Les recettes de fonctionnement à hauteur de 332 969 euros. Les dépenses d'investissement à hauteur de 665 784 euros, y compris le résultat reporté. Les recettes d'investissement de 332 814 euros. Ce compte administratif se clôture avec un déficit conforme au compte de gestion de 373 487 euros 80. Des questions, des informations, des suggestions ?
Oui, Madame la Présidente, en lien avec le maire de Mondragon, donc il reste 2 lots en cours de commercialisation.
Merci.
Il y a eu des postulats à qui on n'a pas donné suite.
Pardon. Excusez-moi, Monsieur le Président. Il y a eu des postulants qui se sont manifestés, mais on n'a pas donné suite au niveau de l'Interco, à ma connaissance.
Si je peux répondre, l'ensemble des personnes qui ont demandé de louer et d'acheter pardon, les lots ont tous eu une réponse. Peut-être pas la réponse qu'ils attendaient, j'en conviens, mais ils ont tous eu une réponse, cher Denis Mossy.
Chers collègues, je vous propose d'adopter les résultats du compte administratif de la zone d'activité La Clastre avec les chiffres que je vous ai exposés. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie, Monsieur Zilio. Je pense que c'est ici, Monsieur Lou, que je vous rends la présidence de cette séance.
Merci à vous. Il convient désormais, puisque nous avons voté les comptes administratifs, de statuer sur l'affectation du résultat. Il vous est proposé d'affecter le résultat de fonctionnement que vous retrouvez au rapport 44 et qui vient donc préciser que fait ressortir la section de fonctionnement un excédent global de 3 981 € 76 centimes, tandis que la section d'investissement a un besoin de financement de 1 702 838 € 76 centimes, et donc vous proposez d'affecter 1 702 838 € 76 centimes à la section d'investissement et de conserver 2 277 903 60 centimes au titre de l'excédent de fonctionnement reporté. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre? Abstention de Monsieur Mossi.
J'aurais voulu intervenir, mais, on est pressé.
Non, on n'est pas pressé du tout.
C'est 20h.
Donc, allez-y.
Juste, il y a 30 milliards dans les communes. Il faut savoir que le gouvernement lorgne dessus. Hein. On cherche 20 milliards. Il y en a 30 milliards dans les communes. Donc, les reports, tous les ans, c'est bien. Mais ce n'est pas très compliqué d'équilibrer un budget. On reprend le résultat d'une année sur l'autre. On ressort avec 2 millions, 3 millions tous les ans. Les entreprises, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, en général. Mais sachez que les 30 milliards que nous avons dans les communes, le gouvernement s'y intéresse fortement parce qu'il trouverait là une manne que les contribuables locaux ont contribué à créer.
Bien, écoutez, si on avait équilibré à l'euro près, on aurait dû emprunter 1 702 000 en 2023, c'est ce que dit le rapport 44. Et par conséquent, on a préféré le prendre sur l'excédent de fonctionnement. Je crois que c'est une gestion plus sage et plus raisonnable. Et d'ailleurs, vous avez raison de dire, mais vous avez oublié de dire qu'on contribue à hauteur des collectivités en difficulté à hauteur de 2 millions d'euros. C'est le rapport 18 sur la contribution OFPIC, puisque je vous rappelle que le fonds de péréquation, c'est pour aider les collectivités en difficulté. Donc, comme on donne déjà 2 millions d'euros pour aider les collectivités en difficulté... Non, la globalité du FPIC, c'est 2 millions d'euros. Pour la part de l'intercommunalité, c'est 1,3 million. Et c'est ça le détail. Voilà. Mais voilà. Et par contre, ça veut dire que comme on donne des millions d'euros pour les collectivités en difficulté, nous serons les premiers contributeurs de ces dispositions à la recherche des milliards. Voilà. Peut-être un peu moins dans nos communes, mais certainement à la communauté de communes. Vous avez raison de le préciser, alors que l'État, lui, vote depuis des décennies des budgets en déséquilibre. Et ça, c'est un autre débat qui n'a pas lieu dans cette Assemblée. Rapport 44, il s'agit d'affecter le résultat. Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui sourit. Qui est contre? Adopté à la majorité. Qui rit, pardon. Rapport 45, il s'agit du vote des taux de fiscalité sur les quatre taxes. Depuis donc, l'année dernière, la CCRLP est redevenue compétente en matière de taux concernant la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Le Conseil communautaire est invité à valider la fixation des taux d'imposition, c'est-à-dire de les maintenir et de réintégrer cette TH sur les résidences secondaires que nous avions à l'époque, TH à ce ratio de 6-14. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre, adoptée à l'unanimité. Question numéro 46, il s'agit du vote du taux de fiscalité sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Le Conseil communautaire est invité à valider la fixation des taux d'imposition pour 2024, comme il suit. Vous avez l'ensemble du détail, et donc il vous est proposé de délibérer en ce sens. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? La Ligue du Sud contre. Dossier adopté à la majorité. Rapport 47, il s'agit du vote du produit en ce qui concerne la taxe GEMAPI qui fixe pour l'année 2024 le produit de la taxe gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations à 800 000 euros, comme nous l'avions déjà fait, d'autoriser le président à signer tout document se rapportant à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Grappin. Monsieur Grappin prend pas part au vote. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud, qui est contre, adopté à l'unanimité, sans la voix de Monsieur Grappin. Le rapport 48, il s'agit de l'autorisation de programme et de crédit de paiement. Il s'agit de modifier par des nouvelles délibérations des reventilations de crédit entre 2024 et 2025, d'ajouter l'année 2024 sur le haut débit en lien avec le conseil départemental qui va appeler prochainement la dernière somme concernant le déploiement de la fibre, l'autorisation de programme sur la maison du terroir et la manufacture avec des crédits réajustés et l'autorisation de programme relative au théâtre de verdure et reventilé entre 2024 et 2025, comme vous l'aviez dans les tableaux. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud, qui est contre ? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le rapport 49, il s'agit du budget primitif que vous avez sous les yeux et qui est conforme à ce qui avait été évoqué lors du débat d'orientation budgétaire. Je rappelle que c'est un vote de délibération et pas un débat d'orientation budgétaire qui a déjà eu lieu fin février. Est-ce qu'il y a des questions ? Oh, je l'ai fait déjà le mois dernier, mais vous n'étiez pas là. J'en suis navré. Comme vous séchez les conseils, un coup oui, un coup non, c'est difficile à suivre. Je ne vais pas refaire ce que j'ai déjà dit. Allez-y, madame, allez-y.
Merci, monsieur. C'est vrai que vous avez beaucoup à faire partout et que donc il est difficile de réexposer les choses. Alors, on le voit, explosion des charges à caractère général, explosion des charges de personnel et en fait explosion des impôts et de la dette. Aucune remise en question liée à vos résultats de ces 10 dernières années, comme je le disais. En 4 ans, les charges à caractère général ont bondi de près de 54%. Il y a une nouvelle hausse annoncée pour 2024 qui va conduire ces charges à augmenter de près de 70% en 5 ans. Ça vous satisfait. Je présume quand même que la population commence à en avoir assez. 10% de hausse, je présume pas d'ailleurs, elle le dit. 10% de hausse supplémentaire entre 2023 et 2024. 2023 qui était déjà une année de forte hausse, vous imputez les hausses au PIC et à l'énergie, comme on vient de l'écouter maintenant, mais cela fait 10 ans que vous augmentez tous les postes de dépenses, sauf l'investissement. Et comme je le disais, c'est jamais de votre faute, c'est toujours ou le Covid, ou le président de la République, ou l'énergie, ou ceci, etc. Et on le voit encore une fois, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on s'en doutait, et c'est clair. Là. Sur les charges de personnel, comme je le disais tout à l'heure, on voit que les mutualisations ne servent à rien, vous n'économisez à rien, vous continuez de dépenser et vous reportez la faute sur les autres, c'est jamais vous. Alors je donne un exemple, plus 21% de charges de personnel à Bolène dans l'année, hein, plus 9% à la CCRLP entre 2023 et 2024, en un an. Alors on se demande où sont les gains de cette mutualisation, mais on ne se demande pas longtemps puisqu'on voit bien que c'est un puissant fonds et que ce qui devait être, ce qui est normalement la philosophie des intercommunalités, c'est-à-dire de faire en sorte que le travail et la mutualisation permettent des économies d'échelle, on voit que sur votre gestion, eh bien, ça n'est pas possible. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les... Je sais qu'à Bolène, ça a bien augmenté. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres communes. Mais je présume que rien ne s'arrange nulle part dans votre gestion. Je le disais tout à l'heure aussi, mais je le redis à volontiers, ces hausses sont liées à votre mauvaise gestion dans tous les sens du terme. Départ en cascade de personnel, mal-être au travail, arrêt de maladie, les agents souffrent et le font savoir. C'est maintenant le premier monsieur Mossi, je n'ai pas le droit de vous regarder, monsieur Mossi, je n'ai pas le droit de vous sourire, je vais donc mettre une visière bientôt, de façon à ne pas avoir quelques... Vous m'excuserez, ce ne sera pas du mépris, monsieur, ce sera une interdiction venue de la direction de cette collectivité. Alors, Ben oui, monsieur en a parlé. La Chambre régionale des comptes en a largement parlé, d'ailleurs. Et elle a dit à l'époque que vous aviez menti, puisque vous, pour un personnel transféré, vous aviez embauché un personnel. Et c'était ses propres mots. Hein. Alors vous pouvez hocher la tête, madame Desfonds-Fargeon. Je sais que vous êtes costaud sur le sujet. Monsieur le maire aussi, vous êtes irréprochable. On le voit bien dans votre gestion. Donc, la gestion du personnel, je l'ai dit, je dis à quoi c'était dû. Tout le monde le sait. Le personnel le fait savoir. Et c'est votre gloire, d'ailleurs. Vous en êtes fiers. C'est votre gestion qui induit d'importants surcoûts. Votre manière de traiter le personnel qui coûte et qui surcoûte. Sur les investissements, nous n'en finissons plus de payer la maison du terroir. La salle de cinéma, c'est pareil. Et maintenant, le théâtre de Verdure. Alors, quand on voit que tout ça doit servir au développement économique, heureusement qu'on n'est pas pressé, parce que 4 ans pour faire une salle de cinéma, la maison du terroir qui est devenue une maison des services publics, puisque à part un brasseur, je crois, qui a attendu 2 ans pour pouvoir s'installer, ce qui a démoralisé le chocolatier aussi. Alors peut-être qu'un jour il va venir, mais là pour l'instant, il s'est pas décidé. Pourtant, vous l'aviez annoncé à grand renfort de publicité. Alors, donc la maison du terroir, ça nous coûte. La salle de cinéma, ça nous coûte. Et maintenant, le théâtre de Verdure, comme je le disais, c'est un peu pathétique. 1 million de plus pour la seconde salle de cinéma. 1 million de plus pour une salle de 37 places. Hein. Chaque année, depuis 6 ans, je demande si ce projet va aboutir. On n'a pas de réponse, on voit juste que ça se poursuit. Alors, je l'ai dit, hein, le projet avait été annoncé bien avant 2020. Il a été mis en place en 2020. Opportunément pendant les élections, ça vous a permis encore de faire beaucoup de vent, beaucoup de battages comme d'habitude, et puis 4 ans plus tard, c'est toujours pas fini. Alors je me demande s'il faut 4 ans, même dans un pays qui a des difficultés comme le nôtre, s'il faut vraiment 4 ans pour réaliser une salle, je le disais, de 30 sièges dans un bâtiment existant, le tout à grand renfort de millions d'euros. L'impôt des entreprises, à mon avis, devrait plutôt servir au développement économique qu'à ce genre d'opération qui, en fait, n'est là que pour, jeter de la poudre aux yeux, ou vous-même vous parez des plumes du paon, mais apparemment, vous êtes un peu déplumé, là. Alors, on l'a vu dans les documents que vous avez présentés, le développement économique n'avance pas. La somme a été dévolue en 2023 est de 25 millions d'euros. Alors, quand on voit l'article, on voit le compte-rendu dans la presse de la réunion du Cénov, qui, très poliment d'ailleurs, contrairement à ce qui a été écrit après, dit ben, « il faudrait peut-être faire quelque chose, il faudrait peut-être bouger ». Alors, c'est vrai que vous vous êtes vanté d'avoir fait une poissonnerie qui a coulé. Vous aviez acheté le flamenco pour faire je ne sais pas quoi, vous l'avez revendu. La maison du terroir, je vous le dis, c'est des services, hein. C'est la CEMIP, c'est ceci, cela, mais c'est surtout pas du développement économique ou alors à la marge. Donc, effectivement, le Cénov a raison, comme ce sont des gens bien élevés, bien polis, parce que eux sont la richesse. C'est pas comme vous qui l'a gaspillé, cette richesse. Mais eux, ils l'ont créé, la richesse, avec leurs entreprises, avec leurs impôts, avec leurs investissements, avec leurs idées de modernisation, etc. Alors, ils attendent un peu, une petite action, mais en fait, ils ne voient rien venir. C'est un peu comme ce RAN, ou comme les promesses que vous faites depuis votre élection, et avant même votre élection, et qui, on le voit aujourd'hui, tombent à plat. Comme chaque année, ce budget ne permet pas de lire votre projet politique. Ça aussi, entre projet qui n'avance pas et qui n'apporte rien au territoire, et une gestion de l'urgence au fur et à mesure des dégradations. Et malgré cela, vous avez encore besoin de recourir à l'emprunt, parce que vous avez parlé de mes 18 millions, mais je rappelle une nouvelle fois, puisque vous semblez l'oublier, que quand je suis arrivée, monsieur, à la tête de la mairie de Bolène, la dette était de 25 millions. j'ai désendetté, j'ai réalisé des équipements, ce qui vous permet d'ailleurs, comme je vous l'ai dit hier, dans le journal municipal, de dire « Bolène rayonne grâce à la piste de BMX que ma majorité a faite et grâce au tennis couvert que ma majorité a faite, même s'il y avait un peu de goudron qui dépassait. En attendant, les investissements sont là et vous pouvez vous vanter. » Et vous pouvez vous vanter, je rappelle, monsieur, ça vous fait rire, que les tennis couverts étaient attendus depuis 30 ans quand même. Hein. C'était les tennismen qui me le disaient. Donc, vous voyez, vous parlez beaucoup et je suis partie en ayant désendetté à hauteur de 18 millions et en ayant investi beaucoup plus que ce que vous ne le ferez jamais. Donc, ça, au passage, un petit rectificatif. Donc vos comptes sont aussi percés que la toiture de la piscine. Ah oui, parce que là j'aimerais revenir sur la piscine que vous avez en charge depuis un certain nombre d'années quand même, depuis le transfert de 2017 je crois, et vous nous avez dit au conseil municipal de Bolène, vous n'avez rien fait madame Bompard, j'ai dû mettre 1 million d'euros dans la piscine. Bon, ben, 1 million d'euros, on pouvait espérer qu'il n'y ait pas de trous dans la toiture, et que l'eau ne coule pas, comme on l'a vu récemment. J'ai d'ailleurs posté une vidéo sur cette catastrophe. Donc, comment avez-vous pu mettre 1 million d'euros et que ça fuit toujours? Et puis, j'ai vu que dans votre budget, vous rajoutiez encore, je crois, 800 000 euros. Donc, décidément, ça vos comptes, c'est un peu comme la toiture de la piscine, mais c'est sûrement de ma faute depuis toutes ces années que vous l'avez en gestion. Alors, vous êtes, je le disais tout à l'heure, réduit à emprunter chaque année pour ne pas faire grand-chose, car vous avez définitivement plombé les comptes, comme nous le dénonçons depuis 10 ans. Vous êtes passé de 25 millions d'euros en caisse en 2014 à près de 4 millions de dettes, plus les 5 millions de dettes des budgets annexes, et vous comptez cette année encore emprunter 1,4 million. Ce budget, évidemment, comme les précédents, n'est pas sérieux, n'est pas digne de ce territoire, il n'est pas adapté au contexte politique et économique, et enfin, vous allez conduire cette collectivité à la banqueroute et à d'importantes augmentations d'impôts, comme vous le faites chaque année, un peu par-ci, un peu par-là, en essayant de penser que la chose reste peu douloureuse pour le contribuable, mais il ne s'y trompe pas, et il le dit.
Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Mossi.
Bien, Monsieur le Président, je commencerai par 2 ou 3 questions très courtes et j'espère que je pourrai avoir de manière brève et précise une réponse. Première question, le compte 616-1 multirisque passe de 69 000, je parle en kilos d'euros, excusez-moi, en 2023 à 140 000 en 2024, soit pratiquement le double. Donc, est-ce qu'il y a des sinistres? Est-ce qu'on a renégocié les franchises? Enfin, chose habituelle sur un compte assurance. Pourquoi le compte 6413, que vous nommez bonification indiciaire, page 39 du BP 2024, 701 du PDF, comme quoi il faut aller chercher loin les informations, n'est pas crédité d'aucune somme, ni en 2023, ni en 2024. Je ne suis pas un comptable public, mais il me semble que la prime pouvoir d'achat devrait être dans cette case, et qu'elle n'y est pas, à moins que j'ai une mauvaise connaissance de la compta publique, ce qui est fort possible. Concernant le compte personnel, qui est le compte 6411, le principal, rémunération principale des titulaires, il passe de 2679 euros à 2521 euros. Cette diminution est-elle due au passage d'un certain nombre d'agents des services techniques et de l'Interco vers la commune de Bolène, et amoindrie par le passage du service communication de la commune vers l'Interco? Il aurait été bon de joindre un tableau détaillé et explicatif de ces différents mouvements pour avoir un suivi financier et analytique et aussi un suivi des effectifs. Alors là, je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne suis pas DGS, mais il me semble que les tableaux d'effectifs, un suivi des tableaux et d'effectifs doit être fourni. Alors, c'est vrai qu'il a été fourni, mais au 1er janvier 2024, et il ne tient donc pas compte des modifications qui interviennent dans le cours de l'année et qui sont prévues. Par contre, le compte 621-8, autres personnes extérieures, passe de 250 000 en 2022 à 340 000 en 2024. 2023, excusez-moi, à 2024. Donc une hausse de 90 000. Le compte 64-131, dont le libellé est rémunération par vos services, il est supposé qu'il s'agit du compte rémunération des non-titulaires qui passe de 950 000 euros à 1 129 000 euros. Donc on a du personnel titulaire qui diminue en montant. Par contre, on a les services extérieurs, alors je suppose qu'il y a le pied étrier et d'autres, ainsi que les agents non titulaires, les postes financiers augmentent. Cela pourrait traduire le besoin de remplacement de personnel titulaire, peut-être en partie en maladie, et une augmentation de la précarité des statuts des agents de la collectivité. Cela m'amène à nouveau à parler des ressources humaines, sujet difficile à aborder, ainsi que du malaise du personnel. Les économies ne sont pas à chercher dans les pots de yaourt périmés, mais dans l'efficience du personnel pour une meilleure efficacité des services rendus aux habitants du territoire. Si on n'est pas efficient, on ne sera pas efficace au niveau des habitants. Il existe un certain malaise dans le personnel, et notre silence en tant qu'élus nous rend complices, surtout si nous en sommes témoins. Le prochain rapport social 2023 sera pire que celui de 2022, qui était pire que celui de 2021. Et 2024 commence très mal. Il ne nous appartient pas de gérer le personnel, mais nous sommes comptables des dépenses en personnel. Monsieur Bruno Le Maire a parlé de réduire l'absentéisme dans les collectivités locales, dans un souci d'économie, qu'il donnait à 17 jours par agent dans les collectivités locales. Nous sommes à 51 jours dans cette EPCI en 2022. J'avais avancé pour ma part le chiffre de 21 jours et demi selon, c'est pas moi qui l'avance, c'est une étude de l'Observatoire des caisses nationales de retraite des agents des collectivités locales qui porte sur 10 930 collectivités et 273 000 agents affiliés à cette caisse, chiffre que vous avez contesté dans votre réponse. Vous allez peut-être aussi contester celle du ministre de l'Économie, 17 jours pour lui, 21 jours pour moi. 51 jours pour notre PCI. On est à 3 fois ce qu'annonce le ministre de l'Économie en matière d'absentéisme du personnel. Et je ne lâcherai pas pour les 2 ans qui restent. Tant que l'absentéisme ne baissera pas, je ne lâcherai pas. Que ça vous fasse plaisir ou non. Et l'année prochaine sera pire que 2022. Encore une fois, on a un débat très court pour un budget quand même de 34 millions. Un peu plus, 7 millions d'investissements, seulement 560 000 pour l'économie du territoire, qui est à l'origine la première attribution des EPCI. Je me souviens d'un temps où M. Lambertin nous avait obtenu 700 000 euros de subventions sur le silo de la zone industrielle. Donc rien que sur un projet agricole, 700 000 euros. Donc après quelques augmentations de la taxe d'ordure ménagère, je constate que cette année il n'y en a pas. Peut-être les repas à la cantine, je n'ai pas eu la réponse. On marque une pause dans l'espoir que les habitants du territoire oublient les augmentations avant les prochaines élections. Seulement, il y a quand même un problème. Notre beau département, comme souvent vous employez ce mot de beau, est passé du 6e département le plus pauvre au 5e le plus pauvre de France. Voilà le résultat. Sur le département, pour les habitants des territoires. Et les habitants des territoires, vous dites que les collectivités ont de moins en moins d'argent, mais les ménages ont, eux, encore moins d'argent, et il suffit de siéger dans certaines commissions de logement pour voir la précarité des habitants de notre territoire. À défaut d'avoir eu des réponses à plusieurs reprises, chaque fois que peut en poser dans cette assemblée, je ne voterai pas ce budget. Et comme ça, vous pourrez dire que je ne suis pas dans la majorité. Je vous remercie.
Bien, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je vais essayer de répondre à l'ensemble des questions. D'abord, pour ne pas me faire accuser de ne pas répondre à vos questions. Et puis pour le reste, je ne ferai aucun commentaire. Vous savez, je le redis, c'est les actions des personnes politiques qui les classent, et ce n'est pas la perception des autres. En ce qui concerne les assurances, c'est un marché qui a vu une augmentation vertigineuse de 69 000 à 140 000, et c'est pour cela que vous l'avez vu, et encore, je crois que nous avons de la chance de pouvoir être assurés. Parce que je vous rappelle quand même, à moins que vous ne viviez pas sur la même planète, mais qu'il y a quand même un marché des assurances extrêmement compliqué, et qu'on a attendu même plus que le 1er janvier pour être assuré par des compagnies d'assurance, parce que personne ne souhaitait assurer, et que certaines collectivités se retrouvent sans assureur. Et je rappelle que la prescription dans l'assurance, elle est assez compliquée, puisque en fait, si vous ne pouvez pas être assuré par quelqu'un, il faut inscrire le montant possible de dédommagement de dégâts dans le budget général. Donc moi, je me rassure, contrairement à vous, de pouvoir avoir un marché même un peu plus haut sur la responsabilité civile, notamment au vu de ce qu'on aurait pu avoir si on avait dû être notre propre assurance. C'est le premier point. Sur le 6431, 6411 sur la prime du pouvoir d'achat, 6431, c'est la prime de pouvoir d'achat pour les non-titulaires. 6411, c'est pour les titulaires comme pour le traitement, et c'est important de venir le préciser. Sur le personnel extérieur, il s'agit principalement de vacataires, notamment écoles de musique, et donc ces personnels-là apparaissent comme du personnel extérieur, mais en fait, il ne s'agit pas du personnel extérieur, il s'agit des vacataires, dont c'est le statut pour les professeurs de musique, et c'est à ce titre-là qu'il apparaît en tant que tel. Le tableau de suivi des effectifs, et vous d'ailleurs, vous l'avez voté en séance du Conseil, transféré à la gestion du bureau, et donc c'est au bureau que le tableau des effectifs est fait, donc que le suivi est fait en interne. Il me semble, on était sur le 6431, oui, c'était sur l'école de musique, sur la question des ressources humaines. Alors, je vais le dire publiquement, parce que je sais qu'ils nous regardent ce soir, j'étais avec les organisations syndicales cet après-midi, et je peux vous assurer, et elles devaient venir ce soir, elles ne sont pas venues, elles sont particulièrement agacées d'être les otages des joutes politiques dans cette assemblée, comme ça a pu l'être, et donc je vous le dis, pour avoir reçu des organisations syndicales cet après-midi, ils m'ont dit que c'était pas au travers de la défiance d'élus d'opposition qui portaient des questions sur le dialogue social, qui faisait avancer le dialogue social, et que par conséquent, elles étaient assez agacées. Elles m'ont chargé de le dire publiquement, et donc par conséquent, et je les salue si elles nous regardent, je me dois de vous le dire, et ça tombe bien que vous soulevez cette question-là. L'idée encore, c'est de défendre le personnel, cher Denis Mossi, et c'est pas de monter un combat qui d'ailleurs, dans d'autres instances, quand vous dirigez d'autres organismes, n'était pas forcément suivi avec la même rigueur. En ce qui concerne l'augmentation des impôts, ben, il n'y en a pas eu, chère madame. Je sais que c'est un problème qui vous touche particulièrement, mais le budget que nous proposons en 2024 se fait sans aucune augmentation des impôts. Et pour avoir regardé le recours à l'emprunt, puisque l'année dernière on a emprunté, c'est ce que vous avez dit sur la bande-son, l'année dernière on n'a pas emprunté, voilà. Et donc aujourd'hui nous proposons une politique d'investissement sans avoir recours à l'emprunt, puisque vous l'avez vu, si le 1,4 million qui est inscrit par précaution sur un équilibre n'est pas, ce qui n'était pas déjà le cas en 2023, cet emprunt ne soit pas appelé, c'est le cas d'ailleurs, c'est ce que vous nous avez reproché, d'avoir un excédent de 3,9 millions qui nous a permis quand même de ne pas avoir recours à l'emprunt. Dans les grandes lignes, moi je veux dire que sur la politique 2024, nous avons sur les charges à caractère général en hausse, je l'ai déjà dit dans le débat d'orientation budgétaire, prix de l'énergie, prix de l'engrais, je l'ai déjà dit, je le redis, mais la création d'un service commun, l'augmentation des charges de personnel qui sont liées à l'intégration des agents transférés, sur l'attribution des 5 points d'édit, sur le recrutement de plusieurs agents pour renforcer les services de la CCRLP, notamment dans le cadre du développement des services communs. Le chapitre donc relatif aux atténuations de produits, outre les attributions de compensation, prévoit la prise en charge du fonds de péréquation. Les recettes de fonctionnement sont évaluées à niveau prudent, et je veux le rappeler, ils prennent en compte à la fois les décisions fiscales de l'État et celles de la CCRLP, et l'évaluation des recettes prend également en compte les services communs créés et les refacturations dans un contexte dégradé, comme je le disais, avec un résultat reporté de 2,2 millions, soit 600 000 euros de plus que l'année précédente. Comme je vous l'ai dit au débat d'orientation budgétaire, les investissements pour 2024 s'élèvent à plus de 7 millions d'euros et seront fléchés comme je vous l'avais dit, notamment sur la GEMAPI pour 900 000 euros, donc 400 000 euros au syndicat mixte du bassin versant du Lez pour les acquisitions foncières, la poursuite des programmes mentionnés précédemment lors de la délibération relative au programme pour environ 2 millions d'euros, 400 000 euros pour les écoles du territoire, 400 000 euros pour les bâtiments culturels sportifs d'intérêt communautaire auxquels s'ajoutent 800 000 euros prévus au centre aquatique. Et enfin, la communauté de communes prévoit également de porter près de 900 000 euros des travaux de voirie sur les communes membres et de déployer les équipements liés à la collecte des déchets au travers notamment des points d'apport volontaires pour 250 000 euros, là aussi en étant prudent, puisque 250 000 euros, c'est la recette de valorisation que nous récupérons par la valorisation du tri. Enfin, le budget s'équilibre à 37 millions d'euros en section de fonctionnement et 10 millions en investissement, avec des augmentations majeures, mais que je veux rappeler, 900 000 euros sur l'électricité, l'alimentation et l'augmentation du 0,12 sur les agents transférés, prime de pouvoir d'achat, recrutement, agents transférés, lecture publique, communication, pour plus de 600 000 euros. L'augmentation du 0,14 sur la prise en charge et la prise en compte du FPIC par la communauté de communes pour 600 000 euros supplémentaires, en plus de ce qu'elle doit payer. Et l'augmentation du 65 sur des subventions et puis des transferts, notamment pour 340 000 euros. Il s'agit de programmer en 2024 donc 7 millions d'euros sur un investissement fort dans un contexte difficile avec une gestion saine en essayant de reproduire ce que nous avons fait sur le zéro recours à l'emprunt en 2023 et de faire en sorte avec ce 1,6 million de résultats pour l'exercice 2023 de pouvoir regarder les chiffres en face. Enfin, un emprunt de 1,4 million, je le disais, par précaution et par équilibre, et zéro augmentation des taux en 2024 pour préserver le portefeuille des ménages et des entreprises et les aider à amortir un contexte national difficile. Stabilité sur les taux votés en 2023, maintien des taux de taxes d'enlèvement des ordures ménagères fixés en 2023 l'ensemble des accompagnements qui restent, je le rappelle, quand même plus de 23 millions d'euros de travaux réalisés dans les communes grâce au fonds de concours depuis leur création, qui fait de notre intercommunalité le premier financeur des politiques communales. Voilà ce que je voulais dire pour ceux qui ont séché le débat d'orientation budgétaire et pour ceux qui l'ont mal entendu. Le débat n'a pas lieu puisqu'il a été fait. Je soumets cette délibération au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? La Ligue du Sud et M. Mossi. Le rapport est donc à voter à l'unanimité. Sur le rapport numéro 50, il s'agit de repasser l'ensemble des budgets liés à l'ensemble des budgets annexes. Sur le service public de l'assainissement non collectif, il s'agit donc de proposer un budget en équilibre à 50 200 euros, d'adopter ce budget pour faire en sorte que nous puissions estimer 60 contrôles sur les périodicités des 8 ans, auxquels s'ajoutent les contrôles de conception et de réalisation. Voilà ce qui a été identifié sur le budget primitif 2024, avec une réévaluation des tarifs sur l'année 2023 pour prendre en compte le déficit de 9 000 euros qui avait été prévu et que vous avez vu tout à l'heure au compte administratif 2023. Et il n'y a pas donc de section d'investissement. Il convient donc d'adopter ce budget et de constater donc qu'il s'équilibre et pour un montant de 50 200 euros. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Abstention de la Ligue du Sud et de M. Mossi. Question numéro 51, il s'agit du budget annexe de l'Office de tourisme. Il s'agit donc d'un budget dont vous avez un équilibre de 292 100 en fonctionnement et 52 911,36 euros en investissement, d'adopter ce budget en tant que tel et de porter la démarche du développement d'un réseau de développement de pistes cyclables et notamment du développement du cyclotourisme pour relier notamment la Via Rhôna sur ce budget 2024. Il est prévu de développer toujours ces animations et d'équilibrer ce budget, comme je viens de le préciser, de m'autoriser à des mouvements de crédit chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. Est-ce qu'il y a des questions ? qui s'abstient, la Ligue du Sud et M. Mossi, qui est contre, adopté à l'unanimité. Rapport 52, il s'agit du budget annexe du pôle médical, qui s'équilibre à hauteur de 353 910 euros en fonctionnement et 21 723 euros 62 centimes en investissement. Il convient donc de voter ce budget et de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud et M. Mossi, qui est contre, dossier adopté à l'unanimité. La question numéro 53, il s'agit du budget annexe de la zone d'activité de La Croisière. Pour ce budget, il est prévu la poursuite des cessions des lots anticipés à hauteur de 700 000 euros que vous retrouvez dans le tableau et avec actuellement 4 parcelles pour lesquelles les ventes sont en compromis. Le budget retrace également les écritures de stock qui découlent des ventes estimées et donc ce budget s'équilibre à 2,5 millions en section de fonctionnement et 2,857 millions en investissement. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud et Monsieur... Non, la Ligue du Sud. Qui est contre ? Adopté à l'unanimité. Question numéro 54. Il s'agit du budget annexe de la zone d'activité Port-Europarc. Les acquisitions foncières, les indemnisations des fermiers ainsi que les aménagements de voirie nécessaires à l'accès de la zone sont prévus au budget 2024 à hauteur de 5,4 millions. Ce budget s'équilibre à 12 430 000 en section de fonctionnement et 11 millions en investissement. Je remercie, profite pour remercier l'État qui, au travers de la DETR, nous versera 1,5 million d'euros pour développer cette zone. Puisque tout à l'heure, on parlait d'accompagnement et de subvention. Et donc, je remercie les services de l'État. Voilà ce qu'il est proposé, de voter ce budget et de m'autoriser à procéder à tout ce qui permet la réalisation de ce rapport. Qui s'abstient ? La Ligue du Sud, qui est contre, adopté à l'unanimité. Question numéro 55, il s'agit du budget annexe de la zone d'activité de la Clastre. Pour 2024, il est prévu de céder les parcelles de ce budget annexe. Ce budget s'équilibre donc à 375 497,80 euros en section de fonctionnement et 708 457,67 euros en investissement et de voter ce budget, de m'autoriser à faire en sorte que ce rapport puisse être exécuté. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? Abstention de la Ligue du Sud ? Qui est contre ? Adopté à l'unanimité. Et enfin, le rapport 56, qui est le budget annexe de la zone d'activité de la gare, pour lequel ce budget créé fin 2023 prévoit pour 2024 des opérations de démarrage, c'est-à-dire des acquisitions foncières et des premiers aménagements. Et donc ce budget s'équilibre à 610 euros en section de fonctionnement et 600 000 euros en investissement. Pourquoi il y a 10 ? C'est les charges de gestion courante. C'est les ajustements de TVA en fin d'année. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud. Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. La séance du Conseil communautaire est terminée. Je vous remercie, chers collègues, et vous souhaite une très bonne soirée.